Mais ici, il a écrit « Aborder intellectuellement la connaissance la plus haute et en prendre possession par le mental. » Comment est-ce que ça se fait ici? La première phrase. « Aborder intellectuellement la connaissance la plus haute et en prendre possession par le mental. »
Ce qu'il veut dire par prendre possession par le mental, c'est quoi que ce soit qui nous arrive dans le monde spirituel, toujours nous avons une tendance à le traduire mentalement. On veut se l'expliquer à soi-même, en tirer des conséquences, changer l'expérience en une règle d'action. Tirer un profit mental de ce qui s'est passé afin de changer l'expérience en quelque chose d'utile pratiquement. C'est ça qu'il appelle prendre possession mentalement de l'expérience. On le fait pour ainsi dire, automatiquement. Malheureusement, la meilleure partie de l'expérience échappe toujours. Et même si on veut la garder intacte, il faudrait rester dans l'état où l'expérience n'est pas mentalisée, mais si on vit dans le monde extérieur, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça que ceux qui voulaient jouir de leur expérience spirituel sans intervention du mental, rester dans des états de transe et éviter soigneusement de redescendre au niveau de l'action. Mais si l'on veut transformer la vie, si l'on veut que l'expérience spirituelle ait un effet sur le mental, le vital et le corps, sur l'action de chaque jour, il est indispensable d'essayer de la traduire mentalement et d'accepter la diminution inévitable jusqu'au moment où le mental lui-même soit transformé est capable de participer à l'expérience sans la déformer. Ce que l'on veut faire est encore plus difficile puisqu'on veut que le vital aussi soit transformé et puisse participer à l'expérience sans la déformer. Et finalement, que le physique lui-même, le corps, soit transformé par l'action spirituelle et qu'il ne soit plus un obstacle pour l'expérience. Cette transformation est justement le point le plus difficile à accepter pour la pensée ordinaire, parce que c'est presque le la faculté qui doit être changée. Tous les fonctionnements doivent être changés pour que cette transformation soit possible. Et on est habitué à identifier tellement l'activité et son fonctionnement qu'on se demande s'il est possible de penser autrement que de la manière dont on pense d'ordinaire. C'est seulement quand on a eu l'expérience d'un silence total dans la région mentale et de la force spirituelle avec sa lumière et son pouvoir, descendant à travers le mental et le faisant agir directement sans qu'il suive sa méthode habituelle d'analyse, de déduction, de raisonnement, si toutes ces facultés qui sont considérées comme les activités normales du mental sont arrêtés et que tout de même la lumière, la connaissance et le pouvoir spirituel peuvent les transformer en une expression directe qui ne passe pas par ses moyens pour s'exprimer. Le mental, dans sa forme la plus extérieure, est un moyen d'action, un instrument d'organisation et d'exécution. Il mais les notions en ordre les unes par le rapport aux autres en tirent des conséquences pour l'action et donnent l'impulsion à cette action. C'est ce pouvoir d'organisation et d'impulsion de l'action qui peut être produit directement par la force spirituelle qui s'empare de la conscience mentale sans que ces procédés d'analyse, de déduction, de raisonnement soient nécessaires. Dans l'intuition, cela se passe déjà un peu de cette manière. Mais l'intervention spirituelle est pour ainsi dire une super intuition et une expression directe de la vision de l'expérience de la connaissance par identité. Il y a beaucoup d'étapes dans cette transformation. Et les premières sont comme des sortes d'imitation mentale du mouvement. Tout le procédé d'analyse, de raisonnement, de déduction et de formulation des conséquences se produit presque spontanément dans un arrière-plan mental et nous donne le résultat qui nous apparaît comme une intuition, mais qui est encore le résultat de tout ce travail qui s'est produit avec une grande rapidité et, comme je dis, dans une sorte d'arrière-plan dont nous ne sommes pas tout à fait conscients. Ce qui fait que nous voyons le point de départ et le résultat sans suivre dans le détail toute la marche, tout le développement de l'activité mentale. Ce sont les gens qui ont un esprit très prompt et qui peuvent se saisir des choses avec une grande rapidité, dont l'activité mentale est extrêmement rapide et prompte, immédiate. ceux-là peuvent donner l'impression qu'ils ont l'intuition, mais ce n'est qu'une forme extérieure et presque une imitation de l'intuition. L'intuition est déjà une vision directe, quelque chose qui se passe du raisonnement et de la déduction. C'est déjà une expression d'une connaissance directe par intuition. Mais jusqu'à ce qu'on soit arrivé là, toute expérience que l'on a pour atteindre la conscience extérieure a besoin de passer par la méthode mentale ordinaire d'observation, d'analyse et de déduction. Et alors, l'essence même de l'expérience s'évanouit et il n'en reste plus qu'une sorte d'écorce très aride qui a perdu tout son pouvoir de réalisation, presque perdu. Les gens qui ont une pensée, une activité intellectuelle très dominante, c'est pour eux une nécessité presque absolue de s'emparer de toutes choses, de toutes les expériences intérieures, et de commencer à les formuler. Ceux qui en plus ont un pouvoir d'expression, ils essayent de formuler dans des mots et des phrases et quand on a vécu ces expériences et qu'on s'aperçoit de cette ligne descendante, on voit à chaque étape la réalité profonde de l'expérience qui recule, qui s'en va dans un arrière-plan, au lieu d'être en face et de dominer tout l'être. Ça recule lentement comme ça, et il n'en reste plus au dehors que quelque chose qui est une sorte d'imitation sèche et froide. Elle peut s'exprimer dans des mots très enthousiastes, mais par rapport à ce qu'est la chose elle-même, en elle-même, dans sa vérité profonde, c'est tellement desséché, amoindri, toute la vraie joie, la vraie beauté, l'enthousiasme intérieur, cette chaleur merveilleuse de l'expérience, tout ça, ça s'en va en arrière. On essaye de le retenir, mais ça vous échappe. Et ce pouvoir de formuler, on le paye très cher.
Dans notre vie, c'est qu'est-ce que nous attendons par le développement du mental et quelle en est l'utilité.
Je crois que je vous ai expliqué ça déjà une fois. Je pense que je l'ai même expliqué en détail dans les articles sur l'éducation. C'est tout à fait comparable aux résultats de l'éducation physique pour le corps. Nous avons des membres, et nous avons des muscles, et nous avons des nerfs, et nous avons enfin tout ce qui constitue notre corps. Si nous ne leur donnons pas un développement spécial, une éducation spéciale, toutes ces choses font ce qu'elles peuvent pour exprimer le pouvoir dans le corps. Mais c'est une expression très maladroite et très incomplète. Il est incontestable qu'un corps physique qui a été éduqué selon les méthodes les plus complètes et les plus rationnelles de la culture physique est capable de choses qu'il ne pourrait jamais faire autrement. Je crois qu'il n'y a personne qui puisse le contester. Eh bien, mentalement, c'est la même chose. On a un instrument mental qui a beaucoup de possibilités, de facultés. Mais ce sont des facultés, des possibilités latentes et qui ont besoin d'une éducation spéciale, d'adressage spécial pour se développer. Il est certain que, au point de vue ordinaire, c'est le cerveau qui est le siège d'expression extérieure de la conscience mentale. Eh bien, si ce cerveau n'est pas développé, s'il est fruste, il y a une quantité innombrable de choses qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce que il n'y a pas l'instrument nécessaire pour l'exprimer. Ce serait comme un instrument de musique auquel il manque le plus grand nombre de notes. Alors, ça fait un à peu près, mais ça ne fait pas une chose exacte. La culture mentale, l'éducation intellectuelle, vous change la constitution du cerveau, l'augmente considérablement. Et par conséquent, l'expression peut être plus complète et plus exacte. Ce n'est pas nécessaire si vous voulez échapper à la vie et aller dans les hauteurs inexprimées, mais c'est indispensable si vous voulez traduire extérieurement votre expérience.
Parce que, n'est-ce pas, comme tu disais, si on a trop développé cette faculté d'analyse et déduction et tout cela, alors ces facultés deviennent un entrave pour les expériences spirituelles, non?
Si elles ne sont pas contrôlées, maîtrisées, oui. Mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça rend peut-être le contrôle un petit peu plus difficile. Comme naturellement un être individualisé est plus facile à maîtriser qu'un être fruste, parce que avec l'individualisation plus complète, l'ego devient plus cristallisé et aussi content de lui-même. Mais en admettant qu'on a surmonté cette difficulté, eh bien le résultat dans une individualité très développée est infiniment supérieur que le résultat obtenu dans une nature fruste et pas éduquée. Je ne dis pas que le procédé de transformation, ou plutôt de consécration, ne soit pas plus difficile. Mais une fois qu'il est obtenu, le résultat est très supérieur. Ça se peut très bien se comparer à un instrument de musique dont l'un aurait un certain nombre de notes et l'autre en aurait 10 fois plus. Eh bien, il est plus facile peut-être de jouer d'un instrument qui a 4 ou 5 notes. Mais la musique que l'on peut faire avec un clavier complet est évidemment très supérieure. On pourrait même comparer encore plus qu'un simple instrument à un orchestre, un être humain, une individualité humaine pleinement développée ressemble beaucoup à un de ces formidables orchestres qui contiennent des centaines et des centaines d'exécutants. Ils sont évidemment très difficiles à maîtriser et à conduire, mais le résultat est peut-être merveilleux. Mais...